Jacques a travaillé dans le cadre du Grande Empreinte, poser la question comment est-ce qu'on pourrait faire et en même temps assurer une soutenabilité de la dette et peut-être une meilleure coordination au sein de la zone euro. Donc, Jacques.
Merci beaucoup, Jacob. Alors, moi, je vous parlais d'addiction à l'alcool et de l'avenir des gens qui sont ici. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. Et alors, après les révoltés du Bounty, donc, moi, je vous parlais des tréfonds de l'âme humaine. Et c'est comment je fais pour arrêter de boire? Il se trouve que moi, à titre personnel, je ne bois pas, mais je vais quand même essayer de traiter le sujet. Donc, on se bourre la gueule depuis 30 ans. Au déficit, massivement. Et pas que quand ça va pas, ça c'est normal, mais aussi quand ça va bien. On se bourre la gueule tous les jours. C'est pas très très bien. Alors c'est pas très très bien non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, puisqu'on est un peu marié avec les Allemands. C'est un peu le thème que je vais développer avec vous aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, on avait des déficits élevés avant la crise. Si vous prenez la moyenne de la France sur 1980-2007, les déficits moyens sont à 3% du PIB. La limite de Maastricht. Donc, en moyenne, avant, on était déjà bien bourré. Non, c'est pas que. Moi, j'aime bien boire du vin de temps en temps, très bon, avec des amis. Là, c'est tous les jours, matin, midi et soir. D'accord? Alors, à la fin, d'ailleurs, vous n'arrivez plus, comme quand les lendemains de bourre, le dimanche matin, vous savez plus, rien n'est de goût à rien, donc voilà. Ben, nous, c'est permanent. Donc, en fait, on a une structure de la décision politique en France. L'Italie nous ressemble beaucoup pour ça. C'est que les gouvernements, ils ont un jour lu dans leur mauvais manuel de mauvaise école qu'il fallait faire des déficits, comme le disait Keynes. Ils ont bien truc, Keynes, il dit oui, quand on a des crises majeures comme 1930, 1933 ou 2007-2008, il ne faut pas hésiter à appuyer sur la pédale. Donc faire des déficits massifs, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très bien. Mais c'est juste qu'ils ont oublié la suite, c'est que Keynes, il ne disait pas on se bourre la gueule tout le temps. Je veux dire, il disait après, il faut revenir à l'équilibre, voire au surplus. Hein. Parce que sinon, d'ailleurs, c'est comme les antibiotiques, ils en prenaient tous les jours, ça ne sert plus à rien. Donc, il faut penser l'intoxication et la désintoxication. Donc en fait, nos gouvernements passent leur journée à faire du déficit. Et alors c'est quoi? C'est pas de la théorie, c'est juste c'est de la base de l'économie politique de basse engeance. C'est je veux pas assumer mes choix politiques et donc je les fais payer par la génération future. C'est ce qu'ont fait les Italiens toutes les années 1970-80. Donc comment éviter la berlusconisation de la politique, si je voudrais. Alors, ça c'était avant la crise. Alors après, alors si vous voulez, il y a un très bon film d'horreur qui vient de sortir il y a pas longtemps, qui est dans le World Economic Outlook, là, la publication du FMI, qui sort tous les automnes. Il y a un premier chapitre qui est totalement terrifiant, y compris pour les âmes non sensibles, qui vous dit c'est quoi le niveau de richesse après la crise, en cas de crise bancaire. Il regarde les dizaines de crises bancaires qu'il y a eu sur la surface de la Terre depuis 2 siècles et ils disent, grosso modo, 10 ans après la crise, ben, on est 10% moins riche que si on avait suivi le sentier d'avant la crise. Donc, les crises bancaires, c'est super important et c'est super grave. Il y a deux corporations qu'on aurait dû fusiller dans la crise bancaire, ce n'est pas les gens de la BCE. C'est un, les banquiers, enfin surtout les conseils d'administration de banque qui ont pris les risques, mais deux, les régulateurs bancaires. Donc, c'est pas dans mon sujet, mais ça devrait être fait. Alors, les déficits qui étaient à 3% avant la crise, ils ont des bonnes chances de monter plus haut. Je donne 4, 5, 6, plutôt 6%, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la crise bancaire a fait qu'il y a une grosse partie de l'appareil de production qui s'est volatilisé. Alors, ça, c'est la Suède. C'est la Suède, c'est le niveau de richesse, le niveau de PIB, depuis 1980, avec les prévisions jusqu'en 2014 par le FMI. À un moment, je commence une courbe rouge. Avant la courbe rouge, c'est les années 80. Tout allait bien, badaboum, 91, il tombe. La plus grande récession d'Europe de l'Ouest avant celle-ci. Et la courbe rouge, c'est le trend, la tendance d'avant la crise. Ben, les Suédois, alors, un, ils sont grands, blonds, aux yeux bleus, ils sont sérieux. Ils font des réformes consensuelles depuis 8 siècles entre eux. Voilà, comme les Islandais. Mais donc, ils ont une habitude de la performance économique qu'on n'a pas. Et malgré tout, avec une dévaluation massive et de la bonne volonté, ils ont mis 10 ans à rattraper le chemin perdu. Et ils sont suédois. Donc nous, on n'a pas de dévaluation, comme l'a dit mon collègue. L'euro, il a d'ailleurs promis à s'apprécier. Les taux d'intérêt ne vont pas baisser, ils sont déjà très bas, et ils sont aujourd'hui à proche de zéro. Donc si les Suédois, il leur a fallu 10 ans pour rattraper le choc, nous, c'est probablement plus. Alors, juste, vous faites un petit calcul. La surface qui est entre le trait rouge et le trait bleu, c'est la perte de richesse. Comme en France, on prélève à peu près la moitié du PIB, c'est des recettes publiques, hein, en tout cas à la marge. La moitié de la surface qui est sous la courbe rouge, c'est de la dette publique. Enfin, c'est du déficit et de la dette publique. Donc, tout ça pour dire, c'est ça. C'est pour ça que les déficits qui étaient à 3% avant crise vont être à 4, 5, 6. Alors, après le film d'horreur, il y a un film qui est très rigolo. Il y a un film qui m'a fait mourir de rire, c'est le projet de loi de finances 2010. Regardez les annexes. Et il y a une histoire, il y a un conte de fées, il y a une espèce de truc qui s'appelle Alice au pays des Bercy, où on vous raconte qu'on va remonter très vite sur la ligne rouge. Alors si les Suédois ne sont pas arrivés, vous allez m'expliquer comment on va faire. J'ai pas la réponse. À mon avis, ils sont pas très sincères. Donc, tout ça pour dire qu'on est deep in trouble. Vraiment, ça va pas. Et donc, les déficits, ils vont pas être à 3%, ils vont être à 5-6%. Alors, ça pose des problèmes parce que la dette avec ça va s'exploser. Là, j'ai mis une prévision de la dette publique en France avec des déficits à 5%. Hein. Donc, encore là, c'est, je suppose que tout reste égal, que les taux d'intérêt ne bougent pas, que les spreads. Donc, même dans les bons scénarios, la dette explose. Alors, comment on fait? Alors, d'abord, il y a les illusions, pas perdues, mais à perdre. Hein. Bon, c'est ce qu'a dit mon collègue avant. C'est pas la croissance qui fera repartir tout ça. Hein. Je vous ai même montré que c'était plutôt le contraire. Hein. 3 minutes, voilà. C'est pas l'inflation. Et les engagements des gouvernements, on n'y croit plus, comme disait Shakespeare, words, words, words. Donc, en plus de cette dette, on lègue aux générations futures une dette écologique, j'y pense, je passe très vite là-dessus. Donc, il y a des risques pour l'euro très sérieux. D'un côté, on a un pays qui fait n'importe quoi qui est le nôtre sur les finances publiques, et l'autre, de l'autre côté du Rhin, des gens qui sont beaucoup plus sérieux, qui viennent d'inscrire dans la Constitution une contrainte très forte sur le désengagement. Et donc, il y a des risques de clash très forts, comme ça a été dit, entre la France et l'Allemagne. Je ne vois absolument pas comment le président de la République va pouvoir parler sérieusement de politique bilatérale avec Angela Merkel si on continue à avoir des déficits structurels à 6 points de PIB. Et donc, d'ailleurs, enfin, je veux dire, on pourra aller faire des séminaires avec le gouvernement italien et le gouvernement grec sur l'avenir de la politique économique, mais pas avec les Allemands. Donc, je n'ai que 2 minutes, mais moi, ma suggestion, c'est qu'on réfléchisse sérieusement. On est incapable de se désendetter, de se désengager de l'alcool, du déficit. Donc, il faut faire ce qui a été dit juste avant, Ulysse et les sirènes. Donc, les Allemands l'ont fait. Moi, ma proposition, c'est une démarche qui serait de cet ordre-là, c'est-à-dire envisager très sérieusement avec... l'histoire du grand emprunt, je pourrais en parler si vous voulez, mais le grand emprunt, le montant, c'est pas du tout important. Ce qui est important sur l'évolution de l'aide publique, c'est la séquence des déficits sur les dizaines d'années qui viennent. Donc c'est beaucoup plus important de voter une règle budgétaire que de se taper la tête pour savoir si le grand emprunt, il est de 25 ou 50 milliards. Donc, moi, je suggère qu'on mette une règle budgétaire en France qui sera à peu près comme ça. Donc, une règle, j'ai copié en grande partie ce que font les Allemands. Hein. La règle s'appliquerait hors cycle, hein, évidemment, à partir de 2017-2018, quand on espère être vaguement à l'équilibre. Et elle imposerait un équilibre strict hors cycle sur les deux projets de loi de finances essentiels qui sont la sécurité sociale et l'État. Si on veut être tendance et faire... des dépenses à venir. On pourrait même imaginer de surcontraindre le projet de loi de finances de l'État et appliquer autoritairement un point de PIB aux dépenses à venir. Si on craint tous le global warming, je ne comprends pas pourquoi on n'investit pas plus là-dedans, mais c'est secondaire. Donc, cette règle, elle serait valable que tant que la dette est élevée. Moi, j'ai mis 40% parce que ça me semble raisonnable. 60%, c'est trop. Au prochain coup de massue que vous recevez dans 25 ans, vous remontez à 100 points de PIB. Donc, on a compris quand même qu'il fallait être en dessous de 60. 20, c'est probablement trop bas. Donc, 40 me paraît un bon niveau. La règle ne s'applique pas en cas de récession comme aujourd'hui. Elle ne s'applique pas en cas de circonstances exceptionnelles. Je ne sais pas, une règle, une guerre ou autre. Mais laquelle, pour que les gouvernements ne fassent pas joujou avec ces circonstances exceptionnelles, il faudrait qu'elles soient votées, y compris par l'opposition. Et évidemment, comme toujours, les gouvernements mentent toujours sur les hypothèses de croissance et les hypothèses de déficit et de niveau de PIB. Et donc, il faut externaliser toutes ces évaluations à un comité indépendant qui définirait lui-même ces chiffres. La dernière chose, c'est pas une règle de droite et c'est pas une règle de gauche, c'est une règle anti-keynésianisme permanent, ou ce que j'appelle le populisme budgétaire. Une vraie politique de gauche, elle taxe beaucoup et elle redistribue beaucoup. Si vous voulez beaucoup de dépenses publiques, il faut accepter de taxer les gens. Et si vous voulez baisser les impôts, il faut baisser les dépenses. Mais une politique de gauche sur les dépenses et une politique de droite sur les recettes, ça ne va pas. Donc c'est ça qu'il ne faut pas hésiter. Donc une règle budgétaire, ce n'est pas du tout droite ou gauche, c'est forcer les gens à assumer leur choix. Si vous êtes gauche, ben, puisqu'on a la bouche du travail, par exemple, il faut augmenter la taxation et le dire aux électeurs, avec des cycles, des déficits qui feraient que lisser le cycle. Si vous êtes de droite et vous pensez qu'il y a trop de dépenses dans ce pays, qu'il faille baisser les impôts, il faut aussi baisser les dépenses. J'ai cru comprendre que le gouvernement actuel, les précédents et les précédents des précédents, avaient toujours eu une politique de droite sur les impôts et de gauche sur les dépenses. Et ça, ça ne tient pas, ça explose. Et si on rajoute ça à la dette écologique, ça ne va pas. Je veux dire, en un sens, si vous êtes pour la politique de lutte contre le réchauffement climatique, il faut aussi être pour la règle budgétaire. Voilà, merci.
Jacques, merci beaucoup. Ça me donne grand plaisir d'être placé entre un Allemand francophile et un Français germanophile comme Jacques. Et donc maintenant, je donne la parole à Philippe Frémaux, qui va nous présenter une perspective historique, d'une certaine manière. Philippe Frémaux.
Oui, c'est difficile de rebondir sur l'intervention précédente sans commencer par faire un petit mot de commentaire. Parce que à la fois, je suis toujours gêné quand un économiste met du populisme dans ses slides, parce que on a parfois l'impression que pour lui, le populisme, c'est synonyme de démocratie, du fait que c'est finalement la politique qui décide. Et donc, c'est cette volonté de fixer des règles qui encadreraient la décision politique à quelque chose d'un peu désagréable. Pour autant, je souscris tout à fait à votre dénonciation de ce que j'appelle le keynésianisme de comptoir, qui est largement pratiqué dans ce pays, et en ajoutant simplement le fait que la dette n'est pas seulement un transfert vers les générations futures. Et ceux qui imaginent que la dette est de gauche parce qu'elle favorise un haut niveau de dépenses, la dette est aussi de droite, dans la mesure où, de facto, en France, 80% de l'épargne est constituée par les 20% les plus riches, et c'est aussi une dette qui est souscrite par ceux qui paieront des impôts demain et qui serviront à payer une rente à ceux qui n'en auront pas payé aujourd'hui et qui auront effectivement souscrit les titres de la dette publique. C'est notamment ce qui s'est passé en Italie pendant des décennies et décennies avec la botte, comme on dit, outre-Alpes. Bon, venons à notre sujet. Et c'est vrai que tout a été dit beaucoup mieux que moi par les brillants économistes qui m'ont précédé. Donc c'est plutôt le point de vue du journaliste qui, notamment lors de la discussion du traité de Maastricht, s'est prononcé en faveur de l'euro et du oui au référendum de l'époque. Et comment je vois le bilan, effectivement, des années qui se sont écoulées depuis maintenant 1992 et quelles leçons on peut en tirer pour l'avenir. Alors, je crois que la première chose, c'est que c'est quand même terriblement accablant de voir les vertus qu'on donne aujourd'hui à l'euro. C'est-à-dire, si la seule chose qu'on peut dire, c'est que finalement, grâce à l'euro, on a évité que l'Irlande sombre dans l'Atlantique comme l'Islande l'a fait, c'est quand même une vertu extrêmement négative. Je veux dire. L'euro ne vaut pas par les qualités qu'il a, mais par les catastrophes majeures qu'il aurait pu éviter, confronté à la crise actuelle. Et c'est vrai que par rapport aux espérances qui avaient pu être formulées, à l'époque où le traité a été négocié, moi j'ai de nombreuses interviews que je peux retrouver dans les archives d'Alter Echo d'éminents économistes français, on en attendait quand même, du fait de la constitution de cette zone monétaire unifiée, le fait qu'on puisse avoir une attitude plus, disons, de benign neglect à l'égard des questions de taux de change, qu'on puisse avoir une croissance plus forte, qu'on atteigne une résorption du chômage sur l'ensemble de la zone. Et c'est vrai que sur ce plan, on ne peut pas dire que les objectifs aient été parfaitement atteints. Alors, tout a été dit, je veux dire, sur le fait que techniquement, de fait, par exemple, la politique monétaire unifiée n'était pas optimale pour les différents pays de la zone. Mais ça a correspondu aussi à des pratiques et à des volontés politiques différentes de la part des dirigeants. Je veux dire, si l'Allemagne a eu la politique de désinflation quantitative qu'on continue, ce n'était pas seulement parce que les taux d'intérêt étaient des taux d'intérêt réels qui restaient positifs pour elle. C'est aussi que, par rapport à la perception qu'avait eu l'Allemagne de la perte de compétitivité qui résultait du coût de la réunification et de l'endettement qui avait résulté, il y a eu une prise de conscience extrêmement forte et une obsession de la compétitivité du Standort Deutschland qui s'est aboutie par le consensus qui a mis en œuvre notamment des gouvernements sociodémocrates qui a eu pour but, effectivement, d'introduire plus de flexibilité sur le marché du travail, je veux dire, les réformes Hartz-IV sur le marché du travail, et tout ce qui a fait, effectivement, qu'on s'est retrouvé dans une situation où l'Allemagne a fait, finalement, en Europe, ce que d'autres pays faisaient depuis longtemps, comme les Pays-Bas. Mais je veux dire, quand vous êtes en freerider compétitif et que vous êtes un petit pays vis-à-vis des gros, finalement, c'est pas très gentil, mais c'est supportable. Quand vous êtes l'économie dominante de la zone euro et qu'en fait, vos excédents commerciaux sont de facto réalisés en grande partie vis-à-vis du reste de la zone, là, ça pose problème. Et c'est exactement ce que vous avez dit en d'autres termes. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, si on prend l'exemple espagnol qui s'est trouvé de facto avec des taux d'intérêt réels négatifs compte tenu de son niveau d'inflation, qui a favorisé cet endettement des ménages sur lesquels on était complètement indifférent. Je veux dire, moi, je disais, en tant que journaliste, je disais les commentaires, l'Espagne, c'était... Ouais, mais j'ai lu aussi des choses qui étaient écrites par les économistes. Je veux dire, l'Espagne, c'était le pays vertueux parce qu'il avait un excédent budgétaire, il avait une dette publique très faible, c'était très bien. Bon, la dette privée des ménages explosait. À la limite, tout le monde s'en foutait parce que la dette privée, finalement, c'est bien, c'est pas de la dette publique, ça correspond pas à des impôts qu'il faut prélever. Il y avait aussi, je dirais, un biais idéologique dans l'appréciation qui était portée sur les vices et les vertus des différents pays par rapport à un pays comme la France qui a de fait un déficit budgétaire pour les raisons que vous avez dit en termes politiques, et là je souscris au reproche de populisme fait à nos gouvernements, mais je veux dire dans le même temps notre taux d'épargne privée fait qu'effectivement nos comptes extérieurs ne sont pas ceux de la situation de l'Espagne. C'est vrai que l'Espagne a pu supporter une situation où elle est je crois le troisième déficit commercial mondial grâce effectivement aux facilités que lui donnait l'euro. Alors je crois que derrière ça, il y a effectivement des raisons fondamentalement politiques. Je crois que la monnaie unique était un complément logique du marché unique. Elle a été l'aboutissement d'un processus long. On a retrouvé récemment des interviews dans les Échos, enfin, notamment de Valéry Giscard d'Estaing et d'Helmut Schmidt, sur les origines du SME. On voit que c'est une continuation extrêmement longue et qui est même née, finalement, de la réaction européenne à la fin du Gold Exchange Standard et des dévaluations du dollar de 71-73. À partir du moment où on construisait le marché commun, il fallait de fait construire une réponse monétaire unique et l'euro est l'achèvement de cette évolution. Mais c'est vrai que les États, ensuite, n'ont pas été capables de se définir des objectifs communs de politique économique et n'ont pas été capables de mettre surtout en œuvre les procédures légitimes qui permettait de, d'une part de les définir et ensuite de les suivre et de les contrôler. Alors, en pratique, c'est des conditions qui n'ont jamais été remplies parce que, de facto, on a réalisé l'euro au début des années 90, dans la suite effectivement de la chute du mur, et dans un contexte où c'était un morceau très gros à avaler, parce que en fait les États renonçaient à un des éléments majeurs de leur souveraineté, puisque le monopole d'émission de la monnaie, c'est l'élément majeur de la souveraineté à côté du monopole de la violence légitime. Donc ils abandonnaient d'un coup un des éléments majeurs de leur souveraineté, et c'était quelque chose d'extrêmement essentiel pour l'Allemagne, compte tenu du fait que pour l'Allemagne, le Deutsche Mark était quand même le symbole de sa prospérité retrouvée, de sa démocratie telle qu'elle avait émergé des décennies d'après-guerre. Donc le renoncement au Deutsche Mark par l'Allemagne était quelque chose d'extrêmement important, et ça s'est quand même fait dans un contexte de méfiance et de rivalité nationale. Je pense que l'attitude de la France de ce point de vue-là, notamment sur la question budgétaire lors de la renégociation de la PAC qui a été demandée par Schröder à Chirac au début de son accès à la chancellerie, n'a pas été extrêmement intelligente de la part de la France pour ne pas être plus brutale. Je pense que c'était une grosse erreur, parce qu'on aurait dû considérer que la question de la réunification n'était pas une question allemande, comme on le dit dans les beaux discours quand on est à la porte de Brandebourg, mais dans la pratique, de fait, on a tous considéré que c'était une question allemande, parce que c'était le pays le plus riche, il n'avait qu'à payer, et qu'en plus, si ça pouvait l'affaiblir, ce n'était pas une mauvaise chose. Et en fait, on aurait dû considérer que c'était une question européenne, européaniser la question, et on aurait eu peut-être la main pour avoir un trade-off sur la définition ensuite commune d'objectifs de politique économique. Et malheureusement, l'histoire ne s'est pas déroulée comme ça, et on reste dans un contexte où, de fait, le dispositif de régulation du traité est un dispositif qui reste un dispositif de normes, un dispositif juridique, un dispositif qui fixe des interdits et qui est totalement inadapté aux réalités concrètes de la conduite de la politique économique. Parce qu'on peut très bien dire, effectivement, il y a des faibles contraintes en haut de cycle pour que les autorités de chaque pays réduisent leurs déficits et que, en revanche, en période de vache maigre, elles sont autorisées à faire des déficits budgétaires. Bon, c'est vrai, on peut le regretter, mais de facto, je ne pense pas qu'on puisse imaginer la conduite de la politique économique avec ce que ça a essentiel dans le fonctionnement de la démocratie comme quelque chose qui est entièrement encadré par des règles. Il faut qu'il y ait une autonomie du politique, et l'autonomie du politique, elle ne peut se définir que dans un cadre démocratique avec des institutions légitimes. Et c'est ce qui manque aujourd'hui pour faire fonctionner un gouvernement économique de l'Union qui ne soit pas uniquement des vaines paroles. Et alors, de ce point de vue-là, je pense que vous l'avez dit très bien, ce n'est pas seulement un enjeu technique. Le fait qu'on ait une seule institution supranationale, qui est cette banque centrale, qui fait une politique qui ne peut pas être la bonne politique, qui soit la bonne pour tous, suppose effectivement une coordination de très bonne qualité sur le plan budgétaire. Or, qu'est-ce qu'on a ? On a effectivement un budget européen qui, depuis le compromis d'Édimbourg, est plafonné en 92 à 1,22 du PIB, et même en ce moment, il est même en dessous de ça, il est à 1,10. On n'a pas progressé d'un iota là-dessus lors des dernières négociations sur les perspectives. On voit bien qu'aujourd'hui, les États sont dans une attitude de refus absolu de confier une légitimité fiscale au Parlement européen. Or, il est clair que cette coordination des politiques économiques, la meilleure façon de la résoudre, ça serait d'abord d'avoir un budget européen plus important, ce qui suppose à la fois de communautariser un certain nombre de dépenses et évidemment de communautariser un certain nombre d'outils fiscaux, de telle manière que les prélèvements européens ne soient plus des prélèvements qui soient faits sur les recettes fiscales de chaque État, ce qui évidemment entraîne un comportement qui fait que chaque État raisonne lors des négociations budgétaires sur le plan de la contribution nette, qui est le plus stupide qui soit, parce que c'est la négation même que ce qu'on fait ensemble est quelque chose qui profite à l'ensemble pour retomber finalement avec un bénéfice pour chacun. Le raisonnement même en contribution nette, c'est la négation même du fait européen et de ce pourquoi on essaye de faire des choses ensemble. Alors, je terminerai en disant que sur le plan, effectivement, si vous me laissez encore 3 minutes, puisque on peut un peu resituer quand même ça dans un cadre politique et historique, c'est-à-dire cette absence de coordination qu'on retrouve effectivement avec un pacte de stabilité, mais vous l'avez dit très bien, est à la fois inadaptée et inappliquée. Et je pense qu'au fond de ça, il y a le refus des États d'abandonner les outils qui font de leur légitimation. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, quand vous discutez avec les élites dans chaque État, ils savent bien que le système fonctionne mal. Ils savent bien qu'il faudrait faire des choses. Là, vous le savez mieux que moi, je veux dire. Mais dans le même temps, on voit bien que les dépenses des dépenses et le contrôle des recettes, c'est quand même les outils majeurs encore de la légitimation des gouvernements vis-à-vis de leur population. Ils ne veulent pas lâcher là-dessus. Alors, moi, un dernier mot sur les leçons de la crise. Les leçons de la crise, c'est que d'une part, et qui ne me rendent pas vraiment optimiste, c'est qu'on a assisté d'une part à l'inaction totale de la Commission Barroso, on a assisté à l'incapacité du niveau européen de faire un programme de relance communautaire, par exemple avec l'émission d'Eurobonds qui a été finalement rejetée par l'Allemagne. Ensuite, on a eu effectivement l'apparence d'une coordination mise en place par notre président Sarkozy bien-aimé. Oui, j'arrête. Mais je ne vais pas rester quand même sur président Sarkozy bien-aimé. Et si l'adoption du traité de Lisbonne n'est pas une mauvaise nouvelle du point de vue de la qualité des procédures de décision au Conseil, ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des problèmes que j'ai soulevés sur l'incomplétude du traité de Maastricht ne sont absolument pas résolus par le traité de Lisbonne, tant s'en faut.
Merci beaucoup, Philippe Frémaux. On va tout de suite ouvrir aux questions, mais avant ça, je voulais juste dire le point que je trouvais vraiment le plus important dans ce qu'il a dit, Philippe Frémaux, c'était le choix entre une solution bureaucratique et une solution politique. Il est clair, on ne peut pas institutionnellement rester où on est avec l'euro. Mais il y a deux chemins différents. Il y a un chemin, et c'est un petit peu indiqué par le cadre de supervision macroprudentielle au sein de la BCE, qui était décidé au sommet dernier. C'est une voie bureaucratique. On dit, voilà, on établit un mécanisme qui fait que chaque fois, il y a une espèce de divergence dangereuse, une bulle qui se développe, comme les bulles immobilières en Irlande, en Espagne. Et il faut lutter contre ça d'une manière bureaucratique. Soit on fait ça, et je pense en principe faisable, soit on fait un mécanisme plutôt politique, peut-être au sein de l'Eurogroupe, peut-être pas avec les idées de ça fait 10 ans des Français et des Allemands, ceux qui voulaient ou ne voulaient pas dans la coordination économique, mais qu'on dit voilà, il y a des choix où il faut absolument une légitimité démocratique et c'est un petit peu ce choix-là. Et moi je pense franchement, si on n'arrive pas à se mettre à un accord sur la coordination d'économie politique dans le sens politique, on aurait un véhicule bureaucratique qui n'est pas mauvais, mais qui est dangereux, comme a évoqué Philippe Frémaux. Donc maintenant, j'ouvre aux questions. Je ne sais pas s'il y a des microphones. Voilà. Donc, monsieur.
Merci. D'abord, une petite remarque, si vous le permettez. Je ne suis pas très sûr qu'on puisse tirer argument pour prétendre que la dette est de droite du fait qu'elle transfère des richesses à travers les intérêts vers les 20% les plus riches de la population. Car si je ne me trompe, un petit regard historique montre que, sauf quelques errements giscardiens garantis sur l'or, les créanciers de l'État ont plutôt été euthanasiés dans l'histoire que récompensés. Il est difficile de mettre le grand-père en pinet aujourd'hui. Bon, mais ce n'est pas exactement le sens de ma question. Ma question s'adresse, je pense, à la plupart d'entre vous. Vous avez évoqué tout à l'heure l'hypothèse d'un pilotage du taux de change de l'euro, en évoquant l'hypothèse d'un euro faible ou d'un euro fort. Or, ce pilotage aujourd'hui n'a évidemment pas lieu. D'abord parce que, sauf erreur de ma part, la Banque Centrale Européenne n'en a pas mission. La mission peut lui être donnée par les gouvernements et seulement par les gouvernements. Or, jusqu'à présent, je ne crois pas qu'il puisse se dégager un consensus pour qu'une telle mission lui soit donnée. Cette absence de politique de change, moi d'ailleurs, plutôt que de parler d'un euro faible, je préférais parler d'un euro sous-évalué, ce qui a si bien réussi aux marques pendant plusieurs années. Cette mission, donc, qu'elle n'a pas, est-ce que, d'après vous, la raison essentielle, c'est qu'aujourd'hui, il est pour la Banque Centrale Européenne, comme peut-être pour la Banque Centrale Américaine, impossible de mener une politique de change compte tenu des sommes qui sont en jeu aujourd'hui sur le marché des changes, ou bien parce que la volonté politique manque, et dans ce cas, à quelles conditions pourrait-on créer en Europe un consensus sur la volonté politique d'un bon taux de change de l'euro?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, tout en arrière. Il y a monsieur. Je pense qu'on va prendre 2-3 questions et après... Ah, voilà.
Voilà, allez-y, allez-y. Oui. Je ne sais pas si je dois adresser ma question aux chercheurs allemands francophiles ou aux chercheurs français germanophiles. J'aurais deux questions qui se complètent. La première, c'était de savoir quand les Allemands ont donc inscrit dans la Constitution cette interdiction du déficit, est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils pensaient donner une impulsion à d'autres États européens pour les suivre, ou est-ce qu'ils commençaient à désespérer tellement de la possibilité d'une politique commune qu'ils ont commencé à jouer finalement en solo? Et ma deuxième question, simplement, est-ce qu'il y a d'autres États membres de l'Union européenne qui ont ce même principe inscrit dans leur Constitution? Je vous remercie.
Merci. Et la troisième question, après on va faire des réponses.
Oui, ma question complète un petit peu la première question. Moi, je reviens à l'idée au titre « Changer pour survivre ». Je ne vois pas bien comment on va survivre en fait, dans cette histoire, parce que la politique monétaire a été moins large pendant la crise à la BCE qu'à la Fed. On a un refus de l'inflation en Europe, là où il y a une tentation inflationniste aux États-Unis. Donc, clairement, on se dirige vers un euro fort, un dollar faible, a priori une croissance molle, des déficits qui sont montés avec des niveaux de dette sur le PIB qui sont très élevés. Donc, comment on va s'en sortir? On ne va pas pouvoir résoudre notre dette, sauf à taper dans une croissance qui sera déjà molle. On va être en plus plombé par des déficits extérieurs à cause d'un euro fort. Comment on survit? Moi, je ne vois pas comment on survit, là.
Merci. Voilà. Donc, moi, je suggère vous allez vous attaquer aux questions que vous plaisent le plus et vous évitez les questions difficiles. Et moi, je blague. Donc, allez-y.
Si on évite les questions difficiles, ben, on reprend d'autres questions. Hein. Ok, je m'attaque tout d'abord à la première question sur la possibilité de la Banque Centrale Européenne de mener une politique de change. Il y a un article dans l'ancien traité, bon, Lisbonne n'est pas encore en vigueur, mais l'ancien article 111 est un article qui règle les compétences sur la politique de change, et c'est un article qu'aucun juriste ou aucun Européen ne comprend. C'est un article qui ne dit juste pas clairement si c'est la politique ou si c'est la compétence de la Banque Centrale Européenne ou la compétence du Conseil des ministres. En fait, c'est une compétence exercée par les deux avec une certaine entente. C'est comme ça qu'on peut résumer l'article. Je vous invite à le lire. Il est incompréhensible. Donc, qu'est-ce qu'on peut, d'une manière pragmatique, en conclure? Moi, je pense que la politique de change reste avec la Banque Centrale Européenne, parce qu'elle pourra toujours placer la politique de stabilité des prix au-dessus du reste, et peut dire que son intervention dans les taux de change ou dans les marchés des changes sert la stabilité des prix. Si elle fait cela, elle peut effectivement intervenir, et elle l'a fait dans le passé. Donc, je vois mal la BCE accepter une ligne directrice de la part de l'ECOFIN ou de l'Eurogroupe pour mener une taux de change qui serait contraire à cette obligation de la stabilité des prix. Si elle intervient pour un euro sous-évalué, je partage votre sentiment, on peut avoir une monnaie sous-évaluée sans parler d'une monnaie faible. On peut dire que ça pourrait se faire avec une entente tacite entre la Banque centrale et l'Eurogroupe. Peut-être deux mots sur les autres questions. Pourquoi ce frein de la dette en Allemagne? Est-ce que c'est l'exemple? Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est le désespoir? Non plus. Ce que l'Allemagne a essayé de faire, c'est ils ont vu qu'il y avait une nécessité d'une relance fiscale pendant la crise. C'était politiquement une opportunité pour ceux qui étaient contre un envolement de la dette d'introduire ça dans la Constitution. Donc c'était une manière très pragmatique de répondre aux exigences de cette crise. Je voudrais profiter de cette occasion pour répondre un tout petit peu à Jacques Delplat, comme je suis dans le rôle de l'Allemand francophile qui doit donc défendre le point de vue français. Je vais poser deux questions. La première, c'est que est-ce que ce frein à la dette peut vraiment être efficace? Aux États-Unis, 39 États ont inscrit dans leur constitution une règle qui leur interdit d'avoir des déficits. 50 États aux États-Unis ont un déficit. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas avoir une règle qui vous oblige à ne pas avoir de déficit. Si après la croissance s'avère être plus molle que ce que vous avez espéré, eh ben vous avez un déficit. On ne veut pas vous envoyer en prison pour autant, on ne peut pas vous pénaliser parce que sinon ce serait une pénalisation procyclique. Du coup, on vit avec le déficit. Le même problème se posera en Allemagne. Et je suis pour cette raison-là plutôt sceptique par rapport à ce frein à la dette. Pour moi, c'est un instrument politique. De la même manière qu'il y a les critères de Maastricht, c'est un bon moyen d'exercer une pression démocratique politique sur le gouvernement. Comme ça, je n'ai rien contre, mais je ne l'inscrirai pas dans la Constitution. Donc c'est un point que je crois qu'il ne faut pas oublier. Je voudrais poser une question à Jacques Delplat. Vous n'avez pas du tout dit pourquoi il faut un grand emprunt. Vous nous dites qu'il faut se désintoxiquer, mais en même temps, vous nous invitez à une méga soirée ce week-end.
Merci, je l'attendais, donc merci. D'abord sur les règles budgétaires et puis l'avenir. Alors, d'abord, toutes les règles budgétaires qui n'ont pas marché dans le passé, c'est des règles qui étaient nominales. Je n'ai pas le droit de déficit. Or, les règles qui sont allemandes et celles que je propose, c'est en prenant en compte le cycle, évidemment. C'est pour ça que ça marche probablement plus en Allemagne que ça n'a marché aux États-Unis il y a 30 ans. La deuxième chose, c'est des règles ex ante, au moment du vote de la loi de finances. Évidemment, si les recettes sont plus faibles, on ne peut pas revenir sur le passé. Alors les Allemands ont une règle cumulative, si les fondements des recettes est trop fort par rapport à ce qui était prévu et qu'on ne soit pas en récession, on peut rattraper. Mais évidemment, c'est une règle ex ante. Or, si vous prenez les déficits français, depuis 30 ans, ils sont ex ante en déficit de 3%. D'accord ? Donc c'est pas. Alors après, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas ? Les règles des États américains, alors le plus connu c'est la Californie, mais la Californie c'est une règle nominale, vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit au déficit, y compris en récession. Deuxièmement, il y a eu un référendum sous Reagan, gouverneur de la Californie, en 70 et quelques. On n'a pas le droit d'augmenter les impôts, sauf supermajorité à 2/3. Et après, il y a eu d'autres référendums qui ont bloqué un certain nombre de dépenses. Donc vous ne pouvez pas faire déficit, vous ne pouvez pas augmenter les impôts, vous ne pouvez pas baisser les dépenses. Il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est des règles qui étaient logiquement mal faites. Troisièmement, est-ce que ça marchera ? Ça ne marchera pas. Parce que moi, j'ai regardé la littérature du ministère des Finances allemand, que m'avait passé Jacob là-dessus. C'est une sanction d'ordre constitutionnel. Si le déficit est voté à l'avance en déficit structurel, le projet de loi de finances est considéré comme non voté. Donc on prend celui de l'année précédente et on l'exécute par 12e. Donc c'est compliqué après d'aller changer les choses dans la Constitution. Donc c'est pour ça que la règle allemande est beaucoup plus intelligente que toutes les règles budgétaires qu'il y a eu auparavant. Les Allemands, ils ont réfléchi pendant 5 ans, ils ont regardé tout ce qui ne marche pas. Il y avait au sud de l'Allemagne, en Suisse, une ébauche de quelque chose qui ressemblait un peu à la règle allemande qu'ils ont faite à la fin des années 80, deuxième année 2000. Ça marchait pas bien, donc ils en ont tiré. On apprend aussi. On apprend de l'expérience. Donc la règle allemande, elle s'applique pas en cas de récession majeure et en cas de circonstances exceptionnelles bien définies. Voilà. Alors comment on fait pour vivre et rebondir là-dedans ? On aura un taux de change élevé. Mais je ne crois pas une seule seconde aux interventions de change sur le marché de l'euro. C'est tellement énorme et il y a tellement de pays qui ne veulent pas le faire à l'intérieur de la zone euro. Il y aura une faible croissance qui est liée à la crise bancaire et il y aura des restrictions budgétaires. Règle ou pas règle d'ailleurs. Donc, comment ça va se faire ? Moi, je crois que l'une des vertus de la règle budgétaire, de l'obligation d'aller à un équilibre zéro tant que la dette est excessive, c'est qu'on va être obligé de remettre sur la table une grande partie de nos politiques publiques. Et en fait, moi, la vertu que je vois dans une règle budgétaire, au-delà des finances publiques, c'est une vertu sur l'économie réelle. En France, on est les champions d'avoir des secteurs qui ne marchent pas, parce qu'il y a des interdictions ou des ceci, cela, des mauvaises incitations, le marché du travail, le marché du logement. Alors, comme ça ne marche pas, plutôt que de réformer intelligemment, comme l'ont fait plein de pays européens, on remet de l'argent. Alors, ce qui est magnifique, c'est le logement, ça ne marche pas. Et on y met chaque année 2 points de PIB, 40 milliards. Un plan Marshall tous les ans. C'est ça, quand les gens disent qu'il faut un plan Marshall pour le logement, moi je suis étonné. Mais il y est. Il y a le plan Marshall, ils ont fait ça pendant 5 ans. Nous, depuis au moins 30 ans, on met 2 points de PIB, 40 milliards d'aujourd'hui, à aider le logement et tout. C'est parce qu'on a un truc qui ne marche pas du tout. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du marché du logement, mais ça ne fonctionne pas. Donc le jour où on a une règle budgétaire stricte, où on dit il faut arrêter de faire les azous sur, toutes les, sur un certain nombre de marchés, de secteurs de l'économie et être sérieux, on va, forcer, on va mettre une contrainte budgétaire forte sur un certain nombre de secteurs, et donc on va être obligé de les réformer. Donc c'est le marché du travail, c'est le logement, c'est un certain nombre de choses. Donc je crois que les éléments de croissance, ils viennent de là. C'est qu'on va être obligé de remettre les choses sur la table, sur tous les transferts sociaux, on va être obligé de se demander c'est lesquels sont bons et lesquels ne sont pas bons. Ça, c'est un vrai sujet politique. Moi, je n'ai pas la réponse. Ça doit venir du débat collectif. Voilà.
Oui. C'est vrai que par rapport au titre de la table ronde, une des questions qui est posée, quand il y a eu le début de la crise, il y a eu un débat pour savoir si certains pays pouvaient être tentés de sortir de l'euro. Et, ou en être expulsés, mais je veux dire, bon, généralement on sort avant d'être expulsé. Mais la conclusion qui en a été tirée quand même, ça a été très vite que le coût d'une telle sortie serait colossal, notamment en termes de remontée des, évidemment des taux d'intérêt et puis de débat sur quelle serait la nature de la dette passée. Je veux dire. Et de ce point de vue-là, le paradoxe, c'est qu'on est dans une situation où on a un peu l'impression que le fait de survivre est assuré, mais le fait de vivre mal dans cette situation est assuré également. Bon. La seconde chose que je voudrais dire, c'est qu'à la limite, le débat euro-fort, euro-faible, il nous ramène à une situation dont on pensait pouvoir sortir précisément grâce à l'euro. C'est-à-dire qu'on pensait que la constitution de l'euro, dans une zone économique finalement assez peu ouverte vers l'extérieur, allait nous rendre relativement indifférents à la question du taux de change. Et que donc, ce qui était important pour nous, c'était d'avoir un euro stable, d'avoir une stabilité interne que nous procurait l'euro dans nos relations entre les différents pays de la zone. Et que de ce point de vue-là, la question était de savoir si on avait une politique économique interne qui satisfaisait à la production du plein emploi dans la zone. Or, aujourd'hui, on voit que finalement, notre incapacité à définir cette politique et à la mettre en œuvre nous amène à retrouver comme préoccupation centrale la question du taux de change dont la création de l'euro était censée précisément nous... Voilà. Non, il n'y a pas que les Français qui pensent ça. La troisième question, simplement, c'était un mot sur... effectivement, sur le je ne suis pas au fait, comme vous, de la situation qui a donné naissance à la règle allemande, mais c'est vrai qu'en entendant Henri Kanderlein en parler, j'étais tenté de penser, au vu des baisses d'impôts qui sembleraient pouvoir être adoptées par la nouvelle coalition, qu'on se fixe des objectifs très sévères pour dans longtemps, pour mieux faire passer, finalement, les objectifs moins sévères qu'on va se fixer tout de suite. Bon. Enfin, je pose la question. Bon. Et ensuite, je ne vais pas polémiquer avec les solutions que vous donnez pour relancer la croissance française, mais j'ai remarqué que vous n'avez pas répondu à la question sur le grand emprunt, et donc je ne vais pas moi-même y répondre à votre place, sauf si vous m'y autorisez.
Allez-y, je vous donnerai un petit point.
Ça vous donnera l'occasion de répondre. Je sens que moi, je suis un peu inquiet, effectivement, par rapport à l'idée que je me fais de la démocratie budgétaire, de voir apparaître une sorte de budget bis, en plus du budget qui vient d'être voté, alors qu'on avait fait une grande réforme grâce à la LOLF qui permettait normalement d'avoir une vraie transparence et un vrai débat démocratique sur la qualité de nos orientations budgétaires. Le second point, c'est qu'effectivement, je suis atterré, et là, le mot est faible, de voir ce discours réapparaître sur l'opposition entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement qui me semble revenir à la période du Gosplan des années 20, où quand l'acier est trempé, tout va mieux. Il me semble qu'à l'heure de l'économie de la connaissance et de l'immatériel, les dépenses d'avenir sont précisément des dépenses de fonctionnement. Il s'agit de payer des enseignants, payer des chercheurs. Et dans un pays comme la France, qui a la chance d'avoir une démographie relativement dynamique, le principal actif dans lequel l'État devrait investir, ce serait précisément la qualité de la main-d'œuvre, notamment en menant enfin une politique sérieuse en matière de petite enfance.
Merci, Maj. Oui, très rapidement. Donc, sur l'Allemagne, les baisses récentes d'impôts, un point de PIB, n'annulent pas du tout la règle budgétaire allemande. Simplement, au lieu d'être à l'équilibre en 2013, ils seront en 2014, et la règle commence en 2016. Sur le grand emprunt, alors, Vous verrez ce, qu'on a, ce à quoi on a réfléchi jeudi prochain. Moi, j'avais très peur en y rentrant qu'on on enfile des exercices gosplaniens où on mettait de la locomotive derrière de l'acier trempé ou pas. On a fait le maximum pour que ce ne soit pas le cas. Alors, dépenses d'avenir n'est pas nécessairement dépense d'investissement. Moi, à titre personnel, j'ai massivement milité pour un combat qui m'est cher, c'est mettre beaucoup d'argent dans les universités. Je pense que à la petite enfance, je suis d'accord, mais je pense que c'est du ressort but de la politique budgétaire. Je suis d'accord avec vous, mais c'est le lot normal de la politique budgétaire et politique sociale. Les universités françaises, elles sont pauvres. Et ce n'est pas l'argent privé qui viendra. Donc moi, j'avais un item sur le grand emprunt, c'était 50 milliards, je l'ai d'ailleurs écrit, 50 milliards d'euros de dotation pour un capital pour l'ensemble des universités françaises. Et après, elle aurait mis un salaire de chercheur, un équipement et tout ça, ça ne me rate pas. Pour faire des universités françaises comme les universités américaines. Vous verrez jeudi prochain quelle est l'allocation pour ça, je n'ai pas gagné sur tout. Mais par rapport à l'allocation initiale qu'il y avait pour les universités françaises, ça a beaucoup augmenté. Donc je pense que c'est je pense qu'on évite comme ça l'argument à s'y tremper ou pas. Voilà.
Voilà, Jacques, merci. Je voulais passer la parole à Agnès maintenant. Et s'il y a des questions urgentes, il y aura vraiment pour des questions tout court l'occasion de encore une fois les poser.
Juste un mot peut-être sur le pilotage du taux de change de l'euro. D'abord, est-ce que le dollar est faible ou est-ce que le dollar est sous-évalué? Je pense qu'en effet, il est faible, mais je ne suis pas sûre qu'il soit sous-évalué. Et c'est bien ça le point, parce que est-ce que on ne pilote pas le taux de change parce que c'est impossible ou parce qu'on manque de volonté? La réponse est les deux. Pour qu'une intervention de change ait véritablement un impact, il faut que le taux de change soit notoirement à l'écart de ce que les évaluations habituelles disent. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un dégonflement nécessaire du déficit américain et qui doit se payer. Alors le dollar ne baisse pas seulement par rapport à l'euro. Je voulais juste signaler que beaucoup de monnaies dans le monde s'apprécient, même des gouvernements dont les marchés de capitaux sont moins développés qui arrivent à intervenir. Il y a eu, le Brésil a mis des contraintes aux entrées de capitaux, il y a eu des choses qui ont été faites. Je pense qu'il est néanmoins, il est possible qu'on trouve une sorte de consensus entre le Conseil et la Banque Centrale Européenne à un moment donné, mais ça va dépendre un peu de ce qui se passe sur les matières premières. Si les matières premières restent stables, il est possible qu'en Europe, on se trouve dans une situation avec une inflation vraiment trop faible et une croissance vraiment trop faible. Et à ce moment-là, la BCE, et il n'y a pas de raison pour que la BCE et les gouvernements n'aient pas le même point de vue. Et on y est presque, parce que le président de la BCE a fait quand même quelques déclarations qui laissent entrevoir que le taux de change le préoccupe. Donc je ne suis pas totalement aussi pessimiste sur l'impossibilité, en effet, de trouver une voie dans ce traité qui, en effet, est très touffu et qu'on ne comprend pas très bien. Le problème, alors, aussi pour dire que la question du taux de change, c'est une question très française. Dans les autres pays européens, c'est beaucoup moins une question qui est posée. Et on ne se rend pas compte en France, mais c'est quand même symptomatique d'ailleurs que c'était la première question qui a été posée ici. Le taux de change, ça sort tout de suite. Et dans d'autres pays européens, ça ne sort pas du tout. Et bon, nous avons un francophile ici donc qui en a parlé d'emblée dans sa présentation, mais d'autres Allemands n'en auraient pas parlé. Et d'ailleurs, l'Allemagne fait un excédent avec un euro très fort, donc on ne voit pas vraiment le problème. Et donc, c'est vrai, des difficultés avec nos partenaires européens sur ce sujet. Je veux néanmoins dire que, donc, par rapport à est-ce qu'on n'a pas raté notre but de nous immuniser contre les variations du taux de change, je pense qu'avec la crise actuelle, le SME, s'il avait eu lieu encore, aurait volé en éclats. On aurait eu des désordres monétaires absolument sans comparaison avec ce qu'on a eu. Et qu'il ne faut pas se focaliser sur euro-dollar. La livre sterling est plus importante pour la zone euro que le dollar. Bon, il se trouve qu'elle s'est effondrée aussi, mais c'est pas de chance. Et surtout, ce qui est pas de chance, c'est que finalement, le taux de change depuis 1999 a évolué. C'est moins qu'il soit haut, qu'il soit bas, ce qui a évolué de manière qui ne nous arrange pas. Il monte quand on voudrait qu'il baisse, et il baisse quand on voudrait qu'il monte. Et c'est surtout ça. Et finalement, les États-Unis s'en tirent mieux, parce que le dollar, lui, il monte quand les Américains ont envie qu'il monte, et il baisse quand ils ont envie qu'il baisse. Et c'est plutôt là-dessus, et ça a un rapport avec le mandat de la BCE, peut-être, ou la tactique, plutôt, de la Banque Centrale Européenne, qui n'est pas la même que celle de la Fed, et qui, peut-être, permettrait de faire bouger le taux de change plus dans un sens qui nous convient. Enfin, sur les États-Unis, il ne faudrait pas qu'on sorte de cette salle avec l'idée que les États-Unis vont faire plein d'inflation et tous nous berner et d'exproprier les Chinois qui détiennent toute cette dette publique. Je pense que les États-Unis n'ont pas forcément intérêt à un scénario où il y aurait une inflation galopante, un dollar qui se déprécie continuellement, parce qu'évidemment, toute cette dette publique qui est partout dans le monde, les gens peuvent acheter autre chose à la place de la dette publique, et ça pourrait se payer par des taux d'intérêt très élevés, un effet boule de neige monstrueux, et les États-Unis, pourquoi pas, pourraient se retrouver dans une situation à la latino-américaine dans quelques années.
Merci beaucoup. Maintenant, il nous reste 4 minutes. Mais je voulais quand même, parce qu'il n'y avait que 3 intervenants du grand public, et je voulais quand même vous donner l'occasion, si vous le souhaitez, d'encore faire 2 ou 3 interventions. Monsieur, tout court, le micro arrive.
Merci beaucoup. Si on tourne nos regards vers l'Europe de l'Est, est-ce qu'on peut encore envisager un élargissement de la zone euro quand on se rend compte de l'engagement, de l'impact de la crise actuelle sur les pays d'Europe de l'Est en général, augmentation de la dette publique et privée surtout, à la différence des années 90, est-ce que c'est encore envisageable ou est-ce que la zone euro est arrivée à terme?
Merci beaucoup de demander cette question.
Ça marche. Que je voudrais vous questionner sur cette question que les États, les gouvernants européens seraient incapables de s'entendre. Or, ils ont montré, avec les critères de Lisbonne et le calendrier de Lisbonne, qu'ils sont capables d'ériger des politiques de santé, des politiques de réforme de l'enseignement, et de la recherche, extrêmement profonde, qui bouleverse notre société sans aucun débat démocratique, qu'ils mettent sur pied une politique sécuritaire qui va extrêmement loin avec des techniques de contournement des garanties que l'Europe donne aux citoyens, garanties individuelles et collectives. Donc ils font la preuve depuis une vingtaine d'années qu'ils sont capables de mener contre leur peuple des politiques de coordination très, très élaborées qui se réduisent à des normes. Et cette astuce de tout réduire à des normes fait que rien ne peut être débattu. Alors, c'est un paradoxe que de voir que sur un sujet qui échappe à des États ou même parce que toutes les questions financières sont mondialisées, que là-dessus, il n'y aurait pas de coordination. Voilà ma question.
Merci beaucoup. Je voulais demander, est-ce qu'il y a un jeune, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'audience, est-ce qu'il y a un jeune qui souhaiterait poser une question aussi? Non, ça vous fait peur? Non, ce n'est pas obligatoire. Non, c'est obligatoire? D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose? Ah voilà, très bien. Merci beaucoup. Pardon ? Il y a deux jeunes ?
Il faudrait.
Non, il nous reste pas de temps.
Est-ce que Philippe Frémaux peut développer ses idées sur la démocratie monétaire, la souveraineté des États et la coordination de la politique monétaire?
Donc si j'ai bien compris, c'est la question, comment est-ce qu'on peut démocratiser cette coordination? Oui. Le faire d'une manière plus démocratique, c'est ça?
Oui.
D'accord, très bien. Donc, merci beaucoup. Il y a 3 questions très, très importantes. Je pense qu'on va être interrompu pendant on essaie à répondre, mais on va commencer quand même. Agnès.
Alors, peut-être juste sur l'élargissement de la zone euro. Je crois que la crise a au contraire accéléré les mouvements d'adoption de l'euro. Un certain nombre de pays qui se posaient des questions ont accéléré leur calendrier. À l'inverse, je ne suis pas sûre d'avoir complètement compris, et en fait je crains d'avoir compris en fait, l'attitude des pays de la zone euro, qui sont déjà dans la zone euro, vis-à-vis des pays baltes, en particulier la Lettonie lors de la crise. Puisqu'ils ont dit il faut absolument rester ancré sur l'euro, mais surtout pas rentrer dans l'euro tout de suite. Et donc, ça veut dire que vous allez garder le taux de change fixe par rapport à l'euro, mais au coût le plus fort. Alors, je crois que la seule justification à cela, parce que ce n'est pas pour dévaluer plus tard, hein, c'est pour rester jusqu'à l'entrée dans l'euro, la seule justification à cela, c'est qu'ils savent pertinemment qu'en Europe, seules les politiques de carottes fonctionnent, les politiques de bâtons ne fonctionnent pas du tout. Et donc, ils veulent garder la carotte le plus longtemps possible avant de passer au bâton. Et donc, je trouve ça un peu triste qu'on en soit arrivé là en zone euro et qu'on n'arrive pas à mettre en place un dispositif, qu'on ait besoin du FMI dès qu'il faut un bâton crédible, qu'on n'ait pas la capacité d'avoir des bâtons crédibles ou d'avoir des carottes après l'entrée dans la zone euro.
Je suis sceptique sur l'élargissement de la zone euro. Pour les pays, ça peut être un cadeau à court terme, mais un cadeau ou un médicament empoisonné à moyen ou long terme. On l'a vu avec l'Irlande, que si on abandonne sa politique monétaire, ça peut avoir des conséquences très difficiles pour l'économie. Pourquoi pas de coordination alors que ça marche dans d'autres domaines? Je pense qu'il y a pour moi une réponse très simple. En politique économique, on redistribue. Dans d'autres domaines, on profite tous. Dans un cas, c'est Pareto qui nous dit que tout le monde en profite. Les réformes de Bologne sur l'université sont un très bon exemple. En économie, s'il y en a un qui gagne, l'autre qui perd, je pense que c'est largement un jeu à somme nulle. Sur la démocratie monétaire, c'est une question beaucoup trop complexe pour pouvoir répondre en deux termes ou en deux mots. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est que vous la posiez, parce que ça pose ou ça nous prouve que vous demandez quel est l'impact de la démocratie sur la gestion d'une monnaie. On a opté pour l'indépendance de la Banque centrale comme outil qui permet de gérer la monnaie. Mais on a tous dit aujourd'hui, je crois, qu'il y a des problèmes qui en découlent et qu'il faudra résoudre démocratiquement. Il n'y a pas de réponse simple. Essayez de la trouver vous-même. Merci.
Moi, je vais répondre très rapidement sur la question sur les coordinations. On peut comprendre votre question de deux manières. La première manière, c'est de dire pourquoi il y a des coordinations dans certains secteurs et pas d'autres. La réponse très simple, c'est que c'est facile de se coordonner sur des règles, sur des standards, sur des normes, et la politique budgétaire, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a que les Français qui y croient d'ailleurs, donc c'est compliqué. Ce que j'ai cru comprendre aussi derrière votre question, qui était la deuxième version, qui était grosso modo, quand c'est pour mettre en place des réformes libérales, il y a accord, et quand c'est pas des réformes libérales, il n'y a pas d'accord. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le vrai sujet. Je crois que on va vers... L'essentiel de l'Europe a été fait sur... À moins de passer à une fédération, moi je suis fédéraliste, mais beaucoup de gens ne le sont pas. On est aujourd'hui sur des questions qui sont d'ordre national sur les problèmes. L'école, la santé... L'école, la santé, les retraites, l'éducation, la petite enfance, ça n'a rien à voir avec Bruxelles. Ça a tout à voir avec Paris, Lyon, Toulouse, Brest, Nantes ou Villeurbanne.
Ah, je vais donc avoir le dernier mot. Alors, je suis assez d'accord avec l'orateur qui m'a précédé sur le fait que, justement, ce qui se passe dans le domaine de la santé ou de l'éducation, c'est au mieux l'application de ce qu'on appelle la méthode ouverte de coordination, qui est quelque chose d'assez mou. Et de fait, si on regarde l'évolution des dépenses de protection sociale au sein de l'Union, on voit qu'en dépit de la volonté de multiples États d'essayer de les réduire, elles sont restées à un niveau extrêmement élevé dans l'ensemble des différents pays de l'Union. Et en matière éducative, on vient de rappeler ici qu'un des objectifs que la France pouvait se fixer aujourd'hui, c'était plutôt de dépenser plus pour son université dans le cadre de la vision de l'avenir. Donc l'idée qu'il y aurait une volonté de tout réduire européenne, je pense, est une erreur. Et en revanche, je pense que s'il y a une tendance structurelle à un certain libéralisme en Europe, c'est l'effet précisément de la concurrence des États, et on le voit dans le domaine, par exemple, de la tendance à la baisse tendancielle de l'imposition sur les sociétés, la difficulté qu'on a à faire de la coordination en matière fiscale. Et autour de ces questions, il y a des vrais enjeux, et qu'on ne résoudra effectivement, comme l'a dit très bien Henrik, que par plus de démocratie.
Merci beaucoup. Il me reste à remercier les intervenants, l'audience et aussi l'organisateur de cet événement. Pour moi, comme Allemand, c'était très intéressant et ça nous a donné envie à réfléchir si on pourrait peut-être même monter quelque chose de similaire en Allemagne, parce que pour l'instant, évidemment, les économistes, ils parlent entre eux, mais très rarement au grand public dans un événement comme ça. Donc je trouve ça adorable. Merci beaucoup.